Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30, en direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Dit-il que je travaille loin des canons, je vis en liberté.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 6 octobre 2025 et si l'on peut faire un commentaire sur la semaine qui commence, on peut dire une chose, ça commence très fort. La libre pensée défend viscéralement la liberté, la démocratie, la laïcité, le pacifisme par sa lutte contre la guerre. La Ve République, née d'un coup d'État, premièrement, s'est attachée dès 1959 à porter le plus rude coup contre la laïcité de l'école avec la loi Debré, dont on peut dire que c'est une loi consubstantielle à la Ve République, loi qui a permis le financement public de l'école privée qui, aujourd'hui, représente environ 13 milliards par an. Notons que la majorité du peuple, via une pétition nationale contresignée par près de 11 millions de citoyens à l'époque, en début 1960, a montré que la majorité du peuple était contre cette loi. La loi avait été déjà adoptée et promulguée fin 1959, tout à fait à la fin du mois de décembre, et la mobilisation des laïcs, des organisations laïques à travers le pays, avait permis que cette pétition regroupe, et je crois qu'aucune autre pétition n'a regroupé autant de signatures depuis, donc je le disais, près de 11 millions de signatures nationalement et près de 160 000 en Dordogne. C'est énorme, et c'est une pétition qui exigeait, et cela a été confirmé par ce qu'on appelle le serment de Vincennes, que les signataires s'engageaient à combattre jusqu'à l'abrogation de la loi Debré. Cette revendication est toujours, et j'irai plus que jamais, à l'ordre du jour, après tout ce à quoi on a pu assister ces dernières semaines, ces derniers mois et ces toutes dernières années, au niveau des crimes sexuels de l'Église et de ce qui s'est passé dans un certain nombre d'établissements catholiques. On peut penser bien évidemment au lycée Stanislas et à Bétharram, mais il y en a bien d'autres. Deuxièmement, la Ve République n'a pas hésité à envoyer le contingent en Algérie, menant à la guerre et à la mort une partie de la jeunesse française de l'époque. Et puis, plus récemment, la Ve République a atteint une forme de paroxysme avec le macronisme et la loi séparatisme, la loi confortant les principes de la République, qui a permis, depuis sa promulgation, qu'il y ait plus d'associations dissoutes que dans toute la période qui a précédé, dans la Ve République, y compris la période de la guerre d'Algérie. Donc, de par ces actes, de par les actes et les décisions de tous les gouvernements qui tous l'ont, j'allais dire, servi servilement, la Ve République ne peut se prévaloir ni de liberté, ni de la liberté, ni de la démocratie, ni de la laïcité, et a montré qu'elle était un ferment de la guerre. Pour la libre pensée, nous avons toujours condamné cette Ve République, et ce n'est pas aujourd'hui que l'on peut changer d'avis, bien au contraire, et nous restons ancrés sur la perspective d'une constituante souveraine permettant par les représentants élus du peuple de définir les règles qui vont permettre le fonctionnement de la société dans le cadre d'une véritable démocratie et liberté de parole. Donc nous en sommes très très loin. J'avais évoqué dans de précédentes chroniques le meeting contre la guerre qui s'est tenu hier à Paris et la Libre Pensée, la Fédération nationale de la Libre Pensée, lors de son congrès tenu fin août près de Carmaux, avait appelé à soutenir ce meeting, avait appelé à participer à ce meeting et nous étions une petite délégation du groupe Fred Zeller présent hier à Paris. C'est un meeting extrêmement fort qui s'est tenu avec des interventions qui toutes ont été marquées par des développements de réflexion qui m'ont semblé extrêmement achevés, extrêmement construites, et je dirais avec parfois des moments d'émotion, puisque ce meeting a été ouvert par une prise de parole conjointe d'une militante palestinienne et d'une militante israélienne, et un peu plus loin dans le déroulement du meeting, par une autre participation conjointe, une autre prise de parole conjointe, d'un militant ukrainien et d'une militante russe. Et puis bien d'autres interventions, notamment des responsables des associations américaines, anglaises, qui combattent contre la guerre, qui sont les organisateurs des immenses manifestations qui ont eu lieu pour la défense du peuple palestinien aux USA, en Angleterre, et aussi, parce qu'en Italie, la marque, c'est également la présence du mouvement syndical des dockers, tout particulièrement, et qui, ces derniers jours, ont engagé une grève extrêmement importante. Et pour moi, ça, c'est une première, parce que c'est une grève qui s'est fondée sur l'exigence que soit mis fin au génocide du peuple palestinien, que l'exigeant le cessez-le-feu. Et donc, là encore, il faut voir les reportages qui sont faits sur toutes ces manifestations et initiatives de blocage des ports en Italie, en Grèce également. Tout cela est extrêmement important. Et le meeting d'hier aura une suite, puisque le représentant de Top Ward d'Angleterre a annoncé qu'il accueillerait l'an prochain, au mois de juin, un meeting qui se tiendra à Londres. La date n'est pas encore définitivement fixée. Et bien évidemment, nous allons réfléchir à voir comment nous pourrons prendre part à la préparation de cette initiative qui est extrêmement importante. Alors, j'ai fait ces petites réflexions personnelles parce que la situation née des informations de la matinée amène un constat quand même où les limites du macronisme et de la Ve République sont maintenant largement dépassées et que la manière dont les dirigeants ont bousculé les éléments de démocratie les plus basiques montre que ça ne peut générer que crise sur crise. Alors j'en viens maintenant donc au texte que j'avais prévu de vous lire pour, comme on le fait habituellement, susciter les réflexions des uns et des autres sur différents sujets. Et j'ai un texte qui a été publié dans le Club Mediapart, qui est un texte de Jean Bobéro-Vincent, qui me semble assez intéressant. Je vous le porte à votre connaissance. C'est un billet de blog qui est daté du 2 octobre, donc c'est tout à fait récent. Mais bien évidemment, avant les informations de la matinée. Si l'actualité met en avant le politico-religieux dans la réalité, la sécularisation s'accentue. Un article extrêmement intéressant vient d'être publié dans la revue Nature. Cette étude démontre qu'en dépit d'une actualité où le politico-religieux occupe souvent le devant de la scène, la sécularisation continue de progresser. Contre les adeptes de la pseudo-post-vérité, il faut tenir compte de cette réalité dans la nécessaire vigilance laïque, qui n'est pas celle que l'on met généralement en avant. La sécularisation est un concept familier de la sociologie de la religion. Ce fut même un concept central, englobant, de cette branche de la sociologie des années 1960 aux années 1980-1990. La sécularisation était définie comme l'autonomisation progressive de secteurs sociaux qui échappent à la domination des significations et des institutions religieuses. D'une manière générale, les individus et les groupes sociaux sont moins disposés à donner créance au surnaturel et il se produit, en conséquence, une perte d'importance de la religion sur l'ordre social. Ce déclin religieux ne signifiait pas sa disparition pour autant. Le religieux continuait à agir dans les nuages et les interstices de la vie privée. Je n'indique pas chaque fois qu'il y a lieu les citations qui sont faites dans ce texte, parce qu'il en est émaillé de manière extrêmement intense. Et j'essaierai avec le ton de faire passer un petit peu ce message lorsqu'il s'agit de citations. Donc, que le système socio-économique adopté soit le capitalisme ou le communisme, les sociétés modernes se sécularisaient, opéraient une marginalisation de la religion dans leur vie culturelle et sociale. En fait, il s'agissait, pour ces sociologues, de l'accélération d'un processus socio-historique de longue durée, amorcé avec les Lumières et la Révolution industrielle, est marqué depuis lors par la diminution du produit national brut consacré au surnaturel. C'était une citation, évidemment. Ce que l'on appelait à l'époque le tiers-monde, c'est-à-dire les nations qui s'affranchissaient de la domination coloniale en Afrique, en Asie, et les États d'Amérique latine allaient suivre le même chemin que ces pays concernés adoptent le système socio-économique capitaliste ou communiste. On parlait alors du paradigme de la sécularisation. Et les diverses études de terrain devaient plus ou moins s'y référer pour pouvoir être prises en considération par la communauté scientifique. Pour la jeune sous-discipline qu'était alors la sociologie de la religion, ce paradigme paraissait un apport important en termes d'explications théoriques, notamment des enquêtes empiriques, constatant, en général, une baisse de la pratique religieuse. Mais ce progrès dans la scientificité de la démarche restait, à mes yeux, puisque c'est Jean Bureau qui parle, ambigu, car les théories de la sécularisation servaient également d'instrument dans un combat théologique et ou politique que menaient au sein des institutions ecclésiastiques ou à leur marge des croyants progressistes contre les croyants conservateurs. Les actions de renouvellement entreprises par les Églises étaient analysées comme un processus de sécularisation interne du religieux. Ainsi en fut-il du regard porté sur l'aggiornamento catholique opéré à partir du Concile de Vatican II, 1962-1966. On interprétait également la vitalité de la religion aux États-Unis à travers l'idée d'un déclin de sa rigueur doctrinale. Les éléments chrétiens traditionnels étaient et allaient être progressivement remplacés par une religion démythologisée à contenu éthique plutôt que théologique. Cette optique conduisait donc à penser que des versions sécularisées du christianisme, en affinité avec les convictions personnelles de la majorité des sociologues de la religion, représentaient sa voie d'avenir. Enfin, en érigeant la sécularisation en paradigme, les sociologues de la religion réalisaient une prouesse. Plus leur objet, la religion, semblait décliner empiriquement et devenir socialement marginal, plus ils prenaient de l'importance théorique, puisque la sécularisation apparaissait comme l'élément de la modernité. C'était une manière de se légitimer aux yeux des autres sociologues. Tout en estimant que cette théorisation présentait un intérêt certain, j'ai fondé, dit Jean Bouvéreau, ma carrière d'historien et de sociologue de la laïcité sur le refus des théories de la sécularisation comme paradigme englobant, dernière instance dans l'explication du devenir de la religion. Outre les affinités convictionnelles déjà signalées, qui de mon point de vue entachaient quelque peu le caractère scientifique de ces théories, alors même que ces sociologues anglo-saxons n'étaient pas marxistes. Leur théorisation reproduisait un modèle marxiste assez primaire du social, une infrastructure économique se trouvant au fondement du social et la politique et le culturel constituant seulement des superstructures dépendant étroitement de cette infrastructure. En fait, dans la plupart des travaux de ces sociologues, on allait directement d'une infrastructure économique sécularisante à une superstructure culturelle où la place du religieux diminuait. Le politique, lui, n'était guère l'objet d'études. Il se trouvait en effet le plus souvent réduit à l'observation du comportement électoral des croyants. D'autre part, ces théories supposaient un sens de l'histoire linéaire, ce qui les rendait prédictives. Enfin, les analyses faites restaient assez christiano-centrées, même si l'islam pouvait être en considération. Ainsi, le leader de la jeune Tunisie indépendante, Habib Bourguiba, déclarait que le djihad était désormais la lutte contre le sous-développement. C'était des citations donc de Habib Bourguiba. Il prenait donc une version sécularisée du djihad, dans la perspective du paradigme de la sécularisation. Et c'est cela qui m'a semblé le plus problématique. La laïcité et sécularisme n'étaient que la doctrine politique de la sécularisation et on se laïcisait en se sécularisant. Selon moi, dit Jean Bouvéreau, la métaphore de la spirale semblait plus opportune que celle de la ligne droite pour envisager la longue durée historique et il fallait laisser l'évocation d'un sens de l'histoire aux doctrines philosophiques. Par ailleurs, on devait récuser tout concept univoque englobant. Il devenait alors possible de distinguer une notion socio-culturelle de sécularisation pertinente à condition de renoncer à sa prétention englobante et que l'on pouvait en revanche élargir au-delà du religieux à tout système de sens et une autre religion sociopolitique, celle de la laïcisation, investiguant la régulation politique des religions et des convictions. Deux instruments de mesure distincts, souvent en interrelation, mais pas toujours. Ainsi, le kémalisme turc avait imposé une laïcité stricte sans sécularisation correspondante. En Angleterre et dans les pays scandinaves, la sécularisation était plus poussée que la laïcisation. On referme la parenthèse. Pour analyser le passé et le présent sans, pour autant, prévoir l'avenir. J'ai même tenté, un peu naïvement, de convaincre à un colloque Pierre Berger, le théoricien par excellence de la sécularisation, alors je reprends, non pas Pierre Berger, mais Peter Berger, donc le théoricien par excellence de la sécularisation, de la pertinence de mes vues, ce fut naturellement un lamentable échec. Cependant, la création, en 1988, d'une jeune équipe à l'école pratique des hautes études, histoire et sociologie de la laïcité, puis sa transformation en une unité mixte de recherche du CNRS-EPHE, groupe de sociologie des religions et de la laïcité, donc le GSRL devenu ensuite le groupe Société Religion Laïcité en 1995, et en fait cette année donc, ces 30 ans, se sont effectués notamment sur la base d'une distinction conceptuelle entre sécularisation et laïcisation. Néanmoins, les chercheurs du GSRL, n'étant pas des clones et certains comme mon ami Jean-Paul Willem, trouvaient toujours que la sécularisation constituait une notion plus large que celle de la laïcisation. La tendance générale fut pourtant une prise de distance envers le paradigme de la sécularisation. Il faut dire que si la génération des théoriciens de la sécularisation a été contemporaine de phénomènes de privatisation de la religion, la mienne a vu l'irruption du phénomène politico-religieux manifeste à partir du tournant des années 1970 et 1980, révolution iranienne islamiste, entre guillemets, de 1978-79, surgissement aux États-Unis de la nouvelle droite chrétienne, etc. Confirmé à la fin des années 80 par le rôle joué par des acteurs religieux dans la chute des régimes communistes de l'Europe de l'Est. Face à ces changements, un des théoriciens les plus importants du paradigme, David Martin, énonce alors que la dynastie sécularisante, semble maintenant terminée et qu'il existe deux possibilités, une nouvelle sorte d'espace pour la religiosité ou une totale fragmentation des systèmes religieux. Ceux qui continueront à se référer à un paradigme de la sécularisation adopteront la seconde solution. Quant à Peter Berger, il faut, dirais-je avec humour, de m'avoir écouté, il a brûlé ce qu'il avait adoré et s'est fait le champion d'une théorie de la désécularisation d'un monde redevenu, selon lui, furieusement religieux. Pour ma part, dit donc Jean Bobéro, je suis encore moins convaincu par cette théorie de la désécularisation que je ne l'avais été par le paradigme de la sécularisation. Si on envisage la sécularisation comme un élément de la réalité sociale, en interaction avec d'autres éléments, celle-ci m'a semblé plutôt toujours en progression, alors même que la laïcisation subissait une crise. Cette accentuation de la sécularisation, conjointement à une crise de la laïcisation, intervient dans des pays que Berger considère comme les plus furieusement religieux. Ainsi, J.F. Courbage et Emmanuel Todd, dans le Rendez-vous des civilisations, montrent que, à des rythmes différents suivant les cas de figure, la sécularisation progresse dans les pays à majorité musulmane. Les phénomènes intégristes ou fondamentalistes sont en fait, écrivent-ils, des réactions à l'ébranlement de la croyance religieuse dont la fragilité nouvelle induit des comportements de réaffirmation dans un contexte de transition démographique et d'alphabétisation massive qui déstabilise les structures familiales et sociales traditionnelles et non pas la preuve d'une désécularisation. Sans qu'ils utilisent cette formulation, leur étude va donc dans le sens d'une distinction entre sécularisation et laïcisation. L'étude de Nutcher, citée au début de cet article, à partir de méthodes différentes d'investigation, confirme les conclusions de Courbage et Todd. À partir de ces trois indicateurs, la pratique religieuse, l'importance accordée à la religion et l'appartenance religieuse, il s'avère que dans la plus grande majorité des pays du monde, la sécularisation progresse. Elle s'accentue même dans des pays où le fondamentalisme religieux est actif au plus haut niveau de l'État, comme l'Inde ou les États-Unis. Dans ce dernier pays, La désaffiliation religieuse est passée de 17% à 26% entre 2009 et 2017. Et elle touche, outre des blancs aisés, des migrants asiatiques ne trouvant guère dans l'offre religieuse américaine de quoi satisfaire leur besoin de sens. La sécularisation progresse également dans la majorité des pays de l'ex-bloc de l'Est de l'Europe, ce que n'avait pas réussi à faire l'athéisme d'État communiste, qui ont adhéré à l'Union européenne, comme la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, les États baltes. En revanche, il existe une faible progression de l'importance accordée aux religieux en Géorgie, Bosnie-Herzégovine et Azerbaïdjan. Il existe donc un déclin global de l'influence de la religion dans notre planète. Ainsi, aujourd'hui, un tiers seulement des Français disent être catholiques. Une minorité de pays font cependant exception. Outre les trois déjà cités, il faut ajouter 8 pays africains et le Sri Lanka et Israël. L'étude publiée par Nature ne permet pas de connaître les raisons de cette différenciation, mais celle de Courbadge et Todd, en revanche, pointait notamment le rôle de facteurs géopolitiques, donc relevant de la laïcisation et de sa crise. Tensions intercommunautaires intenses et conflits politico-religieux entre États. De même, les deux auteurs soulignent pour l'Afrique le rôle de la polygamie. En tout cas, les sociologues de Nature en arrivent à des conclusions identiques à celles de Courbadge et Todd. Malgré l'impression donnée par l'actualité d'un regain du religieux, en réalité, l'essor du fondamentalisme et de l'intégrisme religieux dans certains pays, parfois appuyé et revendiqué par des pouvoirs politiques élus, ne reflète pas une expansion du religieux, mais plutôt une réaction face à un déclin du religieux dans la plupart des populations du monde. Là encore, la montée planétaire de la sécularisation se trouverait donc en interconnexion avec la crise de la laïcité dans différents pays. On le constate. L'impression de citadelle assiégée que ressentent des athées et des agnostiques à partir d'une focalisation sur l'actualité telle que médias et réseaux sociaux la traitent et d'une invisibilisation de la réalité empirique est fausse. Elle conduit à une grossière erreur stratégique où, tendanciellement, des mesures répressives sont prises contre les religions dans des pays comme la France et certains autres. C'est là notamment que la distinction entre sécularisation et laïcité s'avère capitale pour ne pas entreprendre des actions contre-productives. La laïcité, régulation socio-politique du religieux et non voie de salut qualifiée d'émancipation, ne se confond pas avec la sécularisation résultat d'une dynamique sociale. Elle n'a pas à imposer autoritairement la sécularisation des individus et des groupes, encore moins à les traiter de façon différenciée selon leur religion et leurs convictions. La laïcité impose à tous le respect de la liberté de conscience. Chacun a le droit, comme le disait déjà John Locke à la fin du XVIIe siècle, et Voltaire à sa suite un demi-siècle plus tard, de choisir le chemin qui lui plaît comme « voie de salut », entre guillemets. Il a même le droit de refuser toutes les voies de salut transcendantes et l'État doit obliger chaque citoyen à respecter ses choix, que celui-ci pense ou non, corps de son Église, de sa chapelle, de sa croyance philosophique ou de la laïcité elle-même, il n'existe point de salut. Autrement dit, pour reprendre la terminologie des Lumières, la laïcité n'impose pas une tolérance idéologique ou doctrinale, l'intolérance à ce niveau peut être tout autant philosophique, séculière que religieuse, mais oblige tout citoyen à une « tolérance civile », entre guillemets. À ce niveau, le degré de laïcité d'un État correspond globalement à son degré de démocratie. D'autre part, des responsables religieux adoptent une stratégie naïve et inefficace quand ils croient qu'en faisant pression pour moins de laïcité, ils arriveront à contrecarrer la sécularisation. En Alsace-Moselle, les églises protestantes évangéliques séparées de l'État manifestent plus de vitalité que le culte protestant luthéro-réformé ou le culte catholique, qui sont semi-officiels par la non-application scandaleuse de la loi de 1905 dans ces départements. Enfin, on peut émettre l'hypothèse d'un lien entre sécularisation et instrumentalisation politique du religieux. Certes, cette instrumentalisation existe dans différents cas de figure. Mais quand le religieux est fort, elle génère un conflit entre puissance politique et puissance religieuse, confère au Moyen-Âge le conflit entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. quand les institutions religieuses deviennent faibles, le pouvoir politique et économique peut d'autant plus facilement instrumentaliser le religieux. C'est ce qui se passe aujourd'hui en France, où l'on voit la progression d'un catholicisme politique, identitaire et plus culturel que vraiment religieux. Où, dans la filiation du catholicisme politique de Charles Maurras, des acteurs politiques mettent des crèches dans les bâtiments publics et érigent des statues religieuses dans l'espace public. La libre pensée mène un courageux combat juridique contre cela. Des acteurs économiques, les milliardaires Vincent Bolloré et Pierre-Édouard Stéin, notamment, promeuvent un catholicisme politique plus proche des positions de l'extrême droite que celles de l'épiscopat, notamment sur les migrants. On assiste alors à la progression d'une catho-laïcité qui est dans sa perversion. Le sociologue ne peut donner de cette recette, de recette toute faite pour faire face à la situation. La communauté des citoyens doit collectivement les trouver et les mettre en œuvre. Mais le sociologue peut clarifier les enjeux et éviter les erreurs de diagnostic. En dépit des adeptes des pseudo-vérités alternatives, en dépit du trumpisme d'atmosphère qui gagne la France, le savoir, la compréhension du réel constitue un outil pour affronter les difficultés du présent. Quand on se trouve dans le déni et que l'on fait prévaloir ses convictions idéologiques sur l'analyse du réel, celui-ci, un jour ou l'autre, vous revient en pleine figure. Fin donc de cet article de Jean Bobéro, que je trouve très intéressant, bon, qui est peut-être parfois un petit peu ardu dans ces développements, et que nous mettrons donc sur le site pour que vous puissiez le retrouver très facilement et revenir dessus si vous le souhaitez. Voilà. Donc nous allons arriver au terme de cette chronique. Je voudrais toutefois donc citer deux publications de la Libre Pensée qui viennent d'être publiées. Une première publication qui provient de la Fédération nationale, c'est le numéro 7 de la revue numérique du Cercle international d'exégèse rationaliste, dans laquelle vous avez toute une série d'articles qui permettent, de mener des réflexions sur différents sujets. Et vous y trouverez notamment un article sur un livre de Nicolas Bourgeois, titré « Une invention nommée Jésus », avec un article, je crois que c'est Christian Echen qui l'a rédigé, et puis également tout un article, assez long d'ailleurs, sur les crimes sexuels de l'Église, l'indemnisation par l'Église des victimes d'abus sexuels. Là encore, c'est sur la base d'une émission de France Culture qui date du 5 juin et dans laquelle s'est exprimé Dominique Gousseau, donc vice-président de la Fédération nationale de la Libre Pensée, la Fédération nationale de Libre Pensée, et responsable de la commission Droit et laïcité de la FNLP. Donc, il est interviewé par Hélène Lorty, et vous pourrez en prendre connaissance, là également, sur le site du groupe Fretzeler et sur le site de la Fédération nationale. La deuxième revue dont je voulais vous annoncer la publication, c'est la revue Front laïque, donc c'est la revue du groupe Fretzeler. Le numéro qui est daté donc de septembre et qui couvre la fin de l'année, puisque c'est une revue trimestrielle, vient d'être publié. Vous pouvez trouver cette revue alors, en version papier auprès des militants du groupe Fretzeler, mais également vous pouvez trouver une version numérique par un abonnement que l'on propose à la somme, pour la somme très modique de 2 euros minimum et que vous pouvez régler par le biais de Hello Asso. Donc vous trouverez ça sur le site du groupe Fretzeler, lpdordogne.fr. Voilà. Donc, je vous dis rapidement, parce que j'ai peut-être quelques secondes pour le dire, que dans ce numéro, vous avez un article sur les méfaits du colonialisme, des interrogations sur le fonctionnement de l'école de la République et sur la reconnaissance de l'État palestinien qui, entre guillemets, récompense Israël. Voilà. Et donc, globalement, non aux politiques de guerre, d'où qu'elles viennent. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle chronique du groupe Fretzeler sur Radio Libre en Périgord.
En forgeant un soc de charrue.
C'était la chronique du groupe Fretzeler de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fretzeler lpdordogne.fr toutes les chroniques du groupe Fretzeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine, dès lundi 11h30.